Bonjour tout le monde et bienvenue à Bien comme un podcast, dans lequel Éric-Olivier Boivin et moi-même, Évrick Bouchard-Desruisseaux, tentons de mieux comprendre les enjeux environnementaux du 21e siècle. Donc aujourd'hui, Éric, on était accompagné par Laurence Martel, qui est coordonnatrice de projet en pollution plastique à l'Organisation Bleue. Donc on l'a rencontré pour approfondir le concept de plastique, mieux comprendre c'est quoi l'impact qu'il y a sur l'environnement, sur notre santé et aussi pourquoi il est aussi omniprésent dans nos vies. Donc, je te laisse faire le topo de notre rencontre avec Laurence.
Yes, merci, Évrick. Aujourd'hui, on traitait du plastique. Le plastique, ça fait partie de nos vies quotidiennes, puis dans toutes les sphères de nos vies. Puis on s'en rend pas nécessairement compte, là. Grosso modo, qu'est-ce qu'on a vu dans l'épisode? Mais c'est assez simple. On a d'abord défini c'est quoi le plastique, là. Parce que souvent, tu sais, moi, c'était bon de réitérer que le plastique, ben, la base de tout ça, c'est du pétrole. Puis ça, souvent, on l'ignore parce que le plastique, c'est on utilise tout le temps, puis souvent, on pense pas à ça. Puis on a aussi parlé par la suite, ben, tu sais, en quoi le plastique, ça va être nocif pour l'environnement, à quel niveau, pour quelles espèces. On en parle beaucoup dans le podcast. On aborde un petit peu aussi le sujet du fleuve Saint-Laurent. T'sais, on sait, bon, on entend beaucoup parler, c'est assez trendy dans les dernières années, là, les îles de plastique, les îles flottantes. On parle un petit peu du Saint-Laurent, qui lui aussi est un fleuve pollué, peut-être plus qu'on le pense, et notamment par le plastique. Puis ben, je finis sur cette ligne de punch-là. Ben, nous, en tant qu'humains, toi, Éric, moi, les deux, on a mangé du plastique aujourd'hui.
Ouais. Sur ce, bonne écoute. Avant de rentrer dans les détails de notre épisode, nous aimerions prendre un moment pour remercier nos partenaires. Ursé Café est la destination de choix pour tous les amateurs de café. Produit à partir de grains soigneusement choisis et torréfié à 3800 pieds d'altitude, leur café saura vous charmer. En plus d'offrir un café d'exception, Ursé veille à la durabilité de ses pratiques agricoles ainsi qu'à la rémunération adéquate de toutes les parties prenantes de sa chaîne d'approvisionnement. C'est ce qu'on appelle le café équitable. En bref, Ursé, c'est un goût incroyable et un choix responsable. Je vous invite donc à aller visiter leur site web et à utiliser notre code promotionnel BCP10 afin de bénéficier d'un rabais de 10% sur vos commandes en ligne. Merci Ursé et bonne dégustation.
On est fiers de vous présenter notre partenaire Décapeur AC. Décapeur AC, entreprise de laquelle je suis l'heureux propriétaire, c'est une entreprise québécoise qui, depuis 1979, redonne vie aux meubles et armoires grâce à des techniques artisanales qui privilégient la restauration plutôt que le remplacement. La mission de Décapeur AC, réduire le gaspillage, prolonger la durée de vie des objets, puis contribuer à un mode de vie plus responsable. Et ça, c'est tous des valeurs qui concordent avec celles de Bien comme un podcast. Écoutez, on vous invite à aller visiter le site web de Décapeur AC ou décapeur.com pour découvrir leur service puis voir comment vous aussi, vous pouvez faire un choix durable en matière d'aménagement et de mobilier dans votre espace de vie.
Bonjour Laurence Martel.
Allô, allô.
Bienvenue à Bien comme un podcast. Comment vas-tu?
Ça va vraiment bien, vous autres?
Ben oui, ça va bien,
merci. Fait que là, aujourd'hui, on veut mieux comprendre l'impact du plastique, l'impact sur notre santé, sur l'environnement, puis aussi mieux comprendre pourquoi c'est aussi omniprésent que ça dans nos vies, en ce moment, le plastique. Donc, avant de rentrer dans le sujet, je t'invite à te présenter.
Super. Mon nom, c'est Laurence Martel, comme tu l'as mentionné. Géographe de formation. Ça va faire 5 ans, en fait, là, que je travaille dans l'écosystème du Saint-Laurent. Fait que pour des différentes OBNL, organismes à but non lucratif pour la protection, conservation et mise en valeur du Saint-Laurent. Puis en ce moment, en fait, je travaille à l'Organisation Bleue, qui est un OBNL pour, encore une fois, mise en valeur, protection de la planète bleue, fait que de notre or bleu. Mais nous, on va vraiment se concentrer sur le territoire du système hydrographique du Saint-Laurent. Fait qu'on a un territoire d'intervention qui va des Grands Lacs jusqu'à l'Atlantique. Puis on va venir vraiment étudier justement l'omniprésence de la pollution plastique. C'est une problématique qui est de plus en plus en vogue, je peux dire ça comme ça. On entend de plus en plus parler. Puis on voit là les effets néfastes que ça a sur nous aussi, mais sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Nous, on va venir vraiment étudier pour avoir un meilleur portrait de à quoi ressemble la pollution plastique ici au Québec, au Canada, mais également à l'international.
Super, ben je pense que tu es parfaitement qualifié pour répondre à nos questions aujourd'hui.
Bon, tu me laisses nous lancer, Évrick.
Vas-y.
Fait que moi, je suis curieux, puis tu sais, je trouve qu'on l'a assumé d'entrée de jeu, là, le lien entre le plastique, puis bon, les conséquences environnementales néfastes, les conséquences humaines néfastes, là, mais tu sais, si on retourne à la base, là, le plastique, mettons, si on commence par ça, le plastique, c'est quoi, mettons?
Le plastique, en fait, c'est un polymère, qui est le terme scientifique. On a deux types de plastique. On va avoir les thermoplastiques puis les thermodurcissables. Donc, thermodurcissables, ça va être le plastique quand tu le chauffes, il va venir venir se durcir. Ben, en fait, ouais, exactement. Mm. Puis le thermoplastique, c'est quand que tu vas venir le chauffer, il va fondre. Ce plastique-là, en fait, c'est lui qu'on utilise dans notre quotidien. Donc, c'est lui qui va être du plastique à usage unique. Fait qu'on peut penser aux sacs de plastique, les pailles, les gobelets qu'on va prendre dans un T4, etc. C'est vraiment lui qui est plus facilement recyclable. En fait, le plastique, ça provient du pétrole également. Donc, c'est une molécule qui va être chimiquement, en fait, modifiée. Puis aussi, à la base, en fait, le polymère, c'est transparent. Mais on va pouvoir y ajouter différents ajouts, comme par exemple des pigments pour y donner une couleur. Fait qu'on peut penser à une bouteille de 7-Up, bon, on va y mettre un petit peu de verre pour que ça devienne justement...
plus attrayant pour le consommateur.
Ouais, exactement.
OK. Mm-hmm. Puis, attends, mais moi, j'ai une question. Ça veut dire, mettons, plus de pétrole, ça veut dire plus de plastique?
Exactement, mais en fait, là, il y a de plus en plus de recherches qui se font, développement de nouveaux plastiques à la base de fibres naturelles.
Okay.
Qu'on peut penser au nylon, par exemple. C'est un plastique fait à la base de fibres naturelles. Okay. Donc, il y a d'autres façons aussi là, de faire le plastique.
Okay.
Mais puisque, en fait, il est vraiment accessible, lui, par le pétrole, parce que c'est une ressource qui est, en fait, la façon de la production, c'est très peu cher, c'est modulable de la forme que tu veux l'avoir, puis aussi, ça, c'est fait pour durer dans le temps. Donc, ça va être un produit qui va être très, en fait, le compétitif. Ça, je peux dire ça comme ça.
Ouais.
Okay. Puis là, on a parlé, tu as abordé l'usage unique, puis les plastiques réutilisables, j'imagine.
Ouais.
Tu as dit que les plastiques à usage unique étaient plus faciles à recycler?
Oui, puisque okay. C'est le type de plastique qu'on va utiliser, donc le thermoplastique, justement. On peut avoir le polyuréthane, on va avoir le polystyrène, le PET. Donc, vraiment, tous les plastiques qu'on va utiliser sur une base quotidienne, ça va être eux qui vont être, en fait, plus facilement... Parce qu'en fait, puisque l'autre type de plastique... À cause que quand on le fait chauffer, il durcit, ben c'est plus difficile justement à recycler, tandis que l'autre, okay. Il va fondre.
OK, ouais. Fait que là, on a un peu le dilemme, bon, ben je veux quelque chose que je peux réutiliser, mais après ça, c'est plus dur à recycler.
Exactement.
Contrairement à quelque chose qui a usage unique, qui est plus facile à recycler.
Ouais.
Mais dans ma tête, ça marche pas, là. T'as du plastique à usage unique que tu vas recycler? Je sais pas, non, mais je sais pas si vous comprenez la dualité dans ma tête. Là. C'est du plastique à usage unique, mais on va le recycler.
Oui. Ben, le plastique à usage unique, en général, là, la moyenne, c'est l'utilisation de 15 minutes.
OK. Puis
par la suite, on va aller le mettre au recyclage pour que ça fasse une boucle circulaire. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on sait pas également, c'est qu'il y a seulement 9 % du plastique qui est recyclé au Canada. Fait que tout le plastique qu'on va recycler, 9 % il va être réellement recyclé. Il va y avoir 80 % qui va se ramasser dans la nature et le reste à l'enfouissement.
80 % dans la nature?
Ouais.
OK, puis c'est où que ça se perd, ça, là, ce 80 %-là? C'est où dans l'eau, puis il y a un trou? Là?
Ben, tu sais, un bon exemple, c'est, mettons, tu mets ton bac de recyclage, ton bac de déchets sur la rue, il y a un coup de vent, il tombe, là, le vent rentre là-dedans, il va y avoir du transport par les vagues aussi, si on est plus en milieu côtier. Donc, toutes les aléas climatiques vont faire que ce plastique-là va se perdre lors de son transport. Là.
OK. Puis ça peut aussi être envoyé dans un site d'enfouissement ou brûlé.
Oui, exactement. Ouais. Puis aussi, ça, en fait, 80 % de la pollution plastique provient des continents. Fait qu'on peut penser que la pollution plastique est plus omniprésente dans l'industrie maritime, tu sais, sur les bateaux, etc. Mais la plupart du temps, la pollution va vraiment se faire sur le continent, donc sur les terres. Fait que là, il va partir d'en haut, va rentrer dans une rivière, prendre un autre affluent, etc. Puis il va se ramasser dans les océans.
Ah ouais, hey, c'est fou ça. Mais Eric, pour revenir à ton point par rapport au plastique à usage unique,
ouais.
Un exemple, là, mettons ton sac de poulet du Costco. Là.
Ouais.
Ça, c'est un plastique à usage unique.
Ouais.
Puis ça serait lui le plus facile à recycler, mais pas à réutiliser.
OK, c'est ça. Bon. L'usage unique, c'est du point de vue de la réutilisation et non du recyclage.
Exact.
Qu'on utilise cette appellation-là. OK.
Oui, parce que, mettons, si on prend du plus réutilisable, ça va être un plastique qui va être plus être durable, qui va faire de bons matériaux. Donc, ce plastique-là, il va perdurer dans le temps, tandis que celui...
Genre un plat de plastique, un plat de lunch, genre.
Oui, exactement. Ouais.
OK.
Ou bien ta bouteille d'eau plastique réutilisable versus que les autres. Ben quand ton plastique devient mou, qu'en fait, tu peux plus le déchirer, etc., ça, c'est comme un... Tu sais, on peut penser à un cup de café, je sais pas, iced tea, que tu vas t'acheter dans une filiale X, ben celui-là, il va être vraiment plus friable, cassable. Ça sera pas, en fait, là, créé pour perdurer dans le temps. C'est pour ça qu'on dit plastique à usage unique. C'est fait juste pour être utilisé une fois. Parce que, mettons, tu vas à l'épicerie, tu t'achètes une sandwich carrée aux œufs. Ben, en fait, tu veux juste la sandwich. Toi, tu t'en fais. Tu prends la sandwich, tout de suite après, tu jettes. Là.
Ouais.
Fait que c'est pour ça qu'en moyenne, le plastique à usage unique, on l'utilise 15 minutes.
Okay. Fait que là, on a notre pétrole qui devient deux types de plastique, plastique à usage unique ou plastique réutilisable. Après ça, c'est plastique.
C'est pas nécessairement plastique réutilisable, ça va être juste une autre forme de plastique qui va être plus. Fait que le thermodurcissable puis le thermoplastique.
OK. Ouais. Parfait. Fait qu'on a ces deux types de plastique-là. Ensuite, nous, en tant que consommateurs, on les utilise, puis là, c'est recyclé ou pas.
Mm-hmm.
Recyclé seulement 9 % du temps. Mais ce plastique-là, c'est depuis quand qu'on a autant de plastique dans nos vies? Parce que moi, je regarde autour de moi, puis il y a du plastique partout.
Parce qu'il est tout dans l'océan. OK, non, excuse.
C'est ça. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le plastique est rentré dans nos modes de vie dans les années 50, lors de la deuxième révolution industrielle, dans le fond. Puis c'était vraiment un produit qui était fantastique. Là. Donc, il était vendu comme ça changeait des modes de vie. Ça a même été, on le voit aussi beaucoup méchamment, le plastique, mais il y a vraiment eu beaucoup de positifs. Ouais. C'est... Du côté féministe, ben, ça a permis aux femmes d'aller sur le marché du travail parce qu'ils n'étaient pas obligés d'être derrière toujours le fourneau. Là. Il y avait des choses rapides, justement. Ils pouvaient faire des lunchs, la nourriture se conservait davantage. Donc, ça leur a permis, justement, là, de la libération des femmes d'un certain côté. Le plastique aussi a permis de réduire le gaspillage alimentaire avec les emballages, etc. Puis aussi au niveau de l'hygiène, donc où on pense santé dans les hôpitaux et tout. Ça a fait un grand changement aussi. Là. Mais qu'est-ce qu'on savait pas, c'est que ce produit fantastique-là, ben, il est devenu problématique. C'est tellement bien fait, c'est qu'il perdure dans le temps. Les plastiques des années 50, on le retrouve encore dans l'environnement, mais d'une forme ou une autre. Fait que ça disparaît pas, le plastique. Ça va juste prendre une forme différente.
Il y a aucun plastique qui disparaît?
Non, c'est ça. Il va se modifier, en fait. Il va devenir, comme on l'appelle, ben, le macroplastique. C'est un gros morceau de plastique qui est en haut de 5 mm.
Ouais.
Et quand il va se désagréger, en fait, se détériorer, il va devenir en microplastique. Donc ça, c'est une particule de 5 mm et moins. Et ça peut aller même jusqu'au nanoplastique, qui est en bas de 0,5 microns. Fait que ça, c'est de la poussière de plastique. Fait qu'on le voit plus, le plastique, dans l'environnement, mais il est toujours là, mais d'une façon, en fait, qu'on peut pas le voir à l'œil humain.
Puis est-ce que c'est ce micro-nanoplastique-là qui finit dans notre nourriture, dans notre eau, etc.?
Ouais, c'est ça. Ben en fait...
Attends, tu viens-tu dire qu'il y a, il y a du plastique qui est dans notre nourriture et dans notre eau?
Ouais, je te jure.
C'est-tu vrai, ça?
Oui, c'est vrai. En fait, qu'est-ce qui est intéressant avec la transformation du micro-nanoplastique qui va se faire, tout dépendamment le type de plastique, sa dégradation va se faire sur une échelle de temps différente. On peut prendre l'exemple d'une bouteille d'eau. Ça peut prendre jusqu'à 400-450 ans à se détériorer. Mais pendant ce temps-là, il va y avoir la dégradation, soit par la photodégradation, fait que les rayons UV, exactement. Ouais. Après ça, on va avoir l'impact des vagues, le vent, etc. Fait que tranquillement, il va se désagréger, puis en petites particules. Cette poussière-là va être dans l'air. Elle va se retrouver aussi dans la colonne d'eau, si on peut prendre les exemples des océans. Puis, en fait, cette poussière-là peut être ingérée par des micro-organismes, comme par exemple, pour l'organisme que je travaille à l'Organisation Bleue, on va venir étudier le microplastique dans les invertébrés, donc dans la mie commune, la moule bleue, puis aussi les oursins. Puisque c'est des espèces filtreuses, mais on en regarde si dans leur tube digestif, ils vont avoir filtré du microplastique par la filtration de l'eau. Fait que là, on pense à ça, c'est à la base de la chaîne alimentaire.
Ouais.
Le poisson se fait manger quelque chose, le plus gros, etc. Mais nous, au bout du compte, le poisson qu'on va manger sur notre table, bien, il va avoir, l'espèce va avoir ingéré du plastique d'une certaine façon.
Puis ça, il y a de la bioaccumulation comme le mercure dans les thons ou dans les gros poissons prédateurs. Tu sais, les poissons n'arrivent pas à libérer ce plastique-là, ça reste vraiment dans le poisson.
Exactement. Okay. Puis, tu sais, juste nous, à l'échelle humaine, ça, c'est encore des recherches qui commencent, mais on en a retrouvé dans nos selles humaines. Fait qu'on voit que, dans le fond, on va le digérer d'une certaine façon, il va passer, mais il y en a qui va rester dans notre système aussi. Là.
Ah fait, ouais. Fait que nous, on mange du plastique, donc c'est comme si on mangeait du pétrole.
On peut dire ça de même, ouais.
Mais en tout cas, on a du plastique dans nous en ce moment. Là. Ouais. C'est ça que ça veut dire.
Exactement.
Peut-être pas en grande quantité, mais il y en a.
Mais sans faire soin, c'est quoi? Mais tu sais, c'est un peu exagéré ce que j'ai dit, mais on l'assume, là, mettons, on mange du plastique dans une sur sûrement une faible quantité, faible proportion, mais c'est quoi les conséquences? On sait-tu, mettons, sur l'humain ou sur les espèces vivantes qui vont consommer ce plastique-là, nécessairement, je pense pas qu'on est fait pour assimiler ça. Là.
Non, en effet. Ben, si je prends un exemple plus sur la faune, donc on y va avec le macroplastique, ben, on va pouvoir avoir l'impact de l'empiètrement. Donc, on peut prendre l'exemple d'une baleine noire qui va s'empiétrer dans des engins de pêche fantômes. Des engins de pêche fantômes, c'est des déchets de l'industrie de la pêche, sont ramassés dans le fond. Donc, eux, ils vont perdre de l'énergie à essayer de se combattre contre ces filets-là qui sont pognés dedans. Fait qu'au bout de la ligne, ils vont en mourir. Sinon, on peut avoir l'ingestion aussi. Ouais. Les tortues de mer, en fait, ils se nourrissent beaucoup de méduses. Puis, les sacs de plastique que c'est dans l'eau, en fait, ça peut ressembler vraiment d'une méduse. Oh. Donc, eux, ils vont venir la manger. Puis, ben, ça va venir boucher, en fait, leur contenu stomacaux. Donc, ils vont pas avoir l'effet de j'ai faim parce que pour eux, ils vont toujours être pleins, dans le fond. Fait qu'ils vont mourir, en fait, de malnutrition, si je peux dire ça comme ça. Il y a aussi les oiseaux, par exemple, qui vont voir un plastique, par exemple, rose, qui va avoir l'air d'une proie, puis eux, ils vont aller dessus parce que, dans le fond, cette proie-là, elle bouge pas, elle fait rien, fait que pour lui, il perd pas son énergie à venir la manger. Donc, encore une fois, ça va venir bloquer ses intestins, etc. Puis pour nous, ben, ça peut avoir un impact. Là, justement, les recherches scientifiques au niveau humain commencent. Ben, on voit qu'on en ingère. Ça, on fait juste brasser notre linge comme ça, là, puis là, il y a des microparticules qui viennent de partir de polyester. Là. Ah, on le voit pas, mais c'est une omniprésence.
Puis là, on respire ça après.
Ouais.
Okay. Fait qu'on sait pas encore c'est quoi réellement l'impact, mettons, justement, de l'ingestion de microplastiques sur l'être humain.
Pas sur l'être humain encore. Okay. Je m'avance plus ou moins là-dessus. Nous, on se concentre plus au niveau du macroplastique puis sur, en fait, l'écosystème marin.
OK. OK.
Mais ouais. Je serais pas surpris de voir une étude dans 20 ans qui dit que finalement le plastique était cancérigène puis que on en avait dans tous nos produits de consommation au final.
Ben, c'est qu'il n'y a rien de naturel là-dedans, là, je veux dire.
C'est ça.
C'est fou, là.
Ça serait légitime. Là. Personne serait choqué de cette découverte-là, malheureusement, je pense. Là.
Non. OK. Fait que bon, il y a du. Là, on vient de le dire, il y a du plastique partout, mais pourquoi? Bon, oui, c'est pratique, mais pourquoi il y a autant de plastique? Moi, je me promène à l'épicerie, là, puis. Vous porterez attention, là, à l'épicerie, tu t'arrêtes pendant 2 minutes, tu regardes autour, là. C'est fou, là, la quantité de plastique, là. Il y en a partout. Mm-hmm. C'est hallucinant. À chaque fois, moi, je reste stupéfait. Mm-hmm. Pourquoi il y a autant de plastique que ça? Est-ce que c'est pour conserver les aliments? Ou... Puis c'est quoi les alternatives aussi à ce plastique-là?
Mais il y a deux questions là-dedans. On utilise beaucoup de plastique parce que, juste en effet, ça peut conserver les aliments puis ça peut contrer contre le gaspillage alimentaire. Mais c'est aussi de la façon dont on consomme. On est vraiment dans une société de surconsommation. On va à la base de la production. La production de plastique, ça représente par 8 millions de tonnes métriques par année au niveau mondial.
Okay.
Pour vous donner une idée, 8 millions de tonnes métriques qui se jettent dans les océans par année de plastique, ça représente un gros camion en fait, de déchets. Qu'à chaque minute, il y a un camion de déchets qui se déverse dans les océans.
À chaque minute?
Ouais.
Mais ça, c'est ce qu'on déverse dans les océans ou c'est ce qu'on produit?
Ça, c'est ce qu'on déverse dans les océans. Qu'est-ce qu'on produit? Ça va être encore plus grand. En fait, au Canada, on est les deuxièmes plus grands producteurs de déchets par habitant. Juste pour vous montrer à quel point qu'on consomme rapidement, justement, tout notre entourage. C'est selon la façon que... Qu'est-ce que le consommateur a devant la table? Bien, souvent, c'est pas lui qui choisit nécessairement. C'est comme qu'est-ce que l'industrie a décidé de mettre devant lui. On peut mettre une anecdote intéressante. Par exemple, à Montréal, la mairesse Valérie Plante, elle a décidé de mettre une loi sur le bannissement du plastique à usage unique dans les restaurants. Okay. Nous, avec notre protocole de caractérisation à l'Organisation Bleue, quand on regarde, on a vu qu'il y a eu un changement, en fait. On retrouve autant d'ustensiles de plastique et de pailles de plastique à usage unique qu'avant, avant, on retrouvait beaucoup ces produits-là en plastique, mais là, on les retrouve en carton ou en
bois.
Exactement. Fait qu'on voit que le consommateur n'a pas changé sa façon de consommer, mais qu'est-ce qu'il utilise pour consommer est différent.
Ouais.
Fait que si, par exemple, tout le monde se mettrait, emboîterait le pas, déciderait de justement aller vers le vrac, de prioriser justement des produits avec peu d'emballage, bien, il mm-hmm. verrait qu'il y aurait une demande moins intéressante et moins grande. Donc, la production elle, pourrait diminuer justement là-bas.
Exact, parce que bien, on sait tout part du consommateur. Là. Oui, il y a les instances gouvernementales puis aussi les industries qui peuvent faire leur part, mais mm-hmm. ultimement... si le consommateur veut quelque chose, souvent les industries vont s'adapter en fonction de la demande. Mais je pense qu'on a moyen de faire quelque chose. Là. Quand on se promène à l'épicerie, moi je le vois là, des fois, c'est pas un gros changement. Là. Des fois, tu vas choisir une laitue qui est dans la section des légumes frais, par exemple, qui n'est pas emballée, contrairement à une laitue qui va être emballée dans un sac de plastique. Même chose pour les poivrons. Tu sais, il y a quand même des options qui sont là.
Ouais.
C'est sûr que quand on va dans les allées, là, c'est plus difficile. Mais cuisiner avec les produits de base, souvent, il y a une option qui est plastic-free ou bien qui en a moins. Des fois, il y a des élastiques, mais bon, c'est moins pire. Mais des fois, c'est un peu plus coûteux aussi. Fait qu'il y a ça aussi. Mm-hmm. Par contre, je me dis, si ça te coûte 5$ de plus par épicerie, bon, c'est
des choix justement à faire. On peut pas être parfait. Je pense que la disparition du plastique dans nos vies, pour le moment, c'est comme impossible parce qu'on est habitué. Puis on faut pas rentrer dans une éco-anxiété, le voir juste comme un côté négatif. C'est vraiment de la façon, comme je disais, qu'on consomme. T'sais, si, mettons, depuis ce matin, là, depuis quand on est levé, là, on pense 30 secondes, combien d'items en plastique que j'ai touché? Fait que je me suis levée, je me suis peut-être brossé les cheveux qui est fait de plastique, j'ai pris ma brosse à dents, c'est fait de plastique. J'suis allée dans ma voiture, puis la voiture est faite de plastique. J'ai même peut-être pris le transport en commun, le banc que je me suis assis est fait de plastique. Fait que certains plastiques sont pas nécessairement mal, tu sais, il y en a qui sont faits pour durer dans le temps, mais on se rend compte qu'on en utilise en effet à l'épicerie, il y en a partout, notre quotidien est empreint de ce produit-là.
Dans ta bouteille, tu fais de l'ordinateur sur ton clavier en plastique.
Ouais, c'est ça.
Mets des lunettes avec du plastique dedans.
Ouais.
Ouais.
Assez omniprésent.
Ouais. Ouais. Fait que, puis au lieu d'acheter, par exemple, du linge en polyester, on va prendre des fibres naturelles à la place.
Parce que c'est ça, le polyester, on a déjà parlé dans un épisode, mais c'est ça, c'est fait à base de plastique. C'est une fibre qui est beaucoup dans les vêtements, une fibre artificielle, si on veut, dans le fond.
Ouais, une fibre textile faite à base de plastique.
C'est ça. OK. Puis là, je pense qu'il est temps d'adresser la question. Est-ce que ça fait vraiment une différence de boire dans des pailles en carton?
Moi, je pense que oui, en effet. Ben, on a vu une diminution là, de près de 30% là, sur en fait, les littorales de l'Est du Canada. Ben, on retrouve une paille en plastique qui peut prendre jusqu'à 100 ans à se dégrader dans l'environnement. Versus en carton, ça peut prendre quelques mois. Là. Fait qu'en effet, il va avoir... Puis sa dégradation, elle va pas persister dans l'environnement. Elle va comme faire partie de l'écosystème.
Ça devient pas un nano-carton. Là.
Ouais, c'est ça.
C'est ça, OK.
Ouais. Puis question bête, là, mettons, ça va dans un fast-food. Là, c'est bien beau, là, tu vas avoir ton verre en carton, la paille en carton, mais le couvercle va être en plastique.
Ouais.
C'est-tu moi qui ai manqué un bout ou pourquoi la paille semble plus petite que le couvercle?
Ouais, ben c'est des petites étapes tranquillement que l'industrie a fait. Mais là, faut penser, bon, ben celui-là en carton va aller dans la section compost ou déchets, tandis que ben mon couvercle, faut que je pense, faut pas que je le mette avec tout ça, faut que je le mette dans mon recyclage.
Ouais.
Ouais. Tu sais, il y a une nouvelle. Un nouveau projet de loi qui est sorti il n'y a pas long là, avec Recycle Québec puis Eco-Entreprise Québec. Fait que là, il faut repenser notre façon de recycler. Fait que là, c'est pas juste à regarder le petit chiffre qu'on a sur le couvercle.
Ouais, ouais, ouais.
C'est comme tout ce qui est contenant, emballage, imprimé.
Ouais.
Fait que tout repenser nos façons de faire puis être conscient de qu'à chaque fois, justement, au lieu de faire ça vite quand t'es devant un bac, tes trois bacs, dans le fond, de prendre le temps de vraiment bien faire les choses. Puis là, après ça, ben ça sera peut-être pas juste 9% du plastique qui va être recyclé, ça va être une plus grande part. Puis la réutilisation va être plus grande. Fait qu'au niveau de la production aussi, ça va diminuer parce qu'on va être capable de le réutiliser. Là. Ouais.
Puis si on pense à des substituts du plastique, là, on en a parlé un petit peu, des pailles en carton, des ustensiles en bois, y en a-tu? Justement, je sais pas, on imagine, mettons, pour remplacer des plats de lunch, pour remplacer ceux qui existent, des brosses à dents en bois. Y a-tu des substituts qui sont réalistes? Parce que je sais que clairement, l'avantage du plastique, c'est que c'est peu dispendieux aussi. Là. Y en a-tu?
D'autres? On peut penser, mettons, les plats de lunch, des plats en verre.
Okay.
Il va y avoir des plats compostables à base de fibres organiques également.
Okay.
Si, mettons, on s'en va dans les... dans un comptoir prêt à manger ou quelque chose comme ça, on peut utiliser ce type de produit-là. Sinon, tu m'avais donné... Ah oui, par exemple, ça presse d'utiliser du saran wrap. C'est comme du papier enveloppé de cire d'abeille qui va
se... Ça, je pense qu'en
a. Oui, j'ai ça chez nous. C'est, ça fait super bien. Tu le laves, tu le réutilises.
Oui, exactement.
C'est du coton, dans le fond, qui est enrobé dans de la cire d'abeille.
Oui, exact. Puis, tu mettons, il va avoir la brosse à dents comme en bois. Puis là, il l'a aussi en bambou. Fait que là, t'es comme déchiré. Je prends tout celle-là en bois d'érable. Quand au Québec, les érables, t'sais, il y en a de moins en moins versus elle en bambou qui vient de vraiment loin. Fait que tu sais, c'est tout des... C'est beaucoup de poids sur les consommateurs, je trouve. Puis c'est beaucoup de, justement, de questionnements qu'on a, puis qu'on n'a pas toujours la réponse. Mais c'est en faisant des petits gestes. Ça peut être aussi simple que prendre une bouteille d'eau réutilisable, puis que tu la gardes pendant 5 ans. Je suis une grande fan de ma bouteille d'eau. Puis, ben, au bout du compte, ce geste-là, en fait, va avoir fait un impact. Ou bien, quand tu vas sur les berges, en fait, ou si tu es juste dans ton quartier, il y a des déchets à terre, ben, tu les prends, tu les ramasses, tu vas les mettre à la bonne endroit. Là.
Mais là, en même temps, tu nous as dit au début que seulement 9% est réellement être recyclé. Si je joue l'avocat du diable, moi, je me dis, ça vaut-tu la peine?
Ouais, ben, il va l'avoir au moins plus dans l'enfouissement. Puis je pense que plus il y en a au recyclage, ben, justement, là, il disait dans la nouvelle loi éco-entreprise, qu'est-ce qu'on met aux... les emballages, les contenants ne seront pas tout de suite recyclés.
Okay.
Mais avec l'intelligence artificielle, tu sais, puis ils vont comme se pratiquer à tout. Fait que plus on. Parce que je pense qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire au niveau du recyclage. On pense que c'est acquis au Canada puis au Québec, mais pas nécessairement. Là. Ouais.
Non, vraiment pas. Alors moi, le premier, on avait fait un épisode sur le recyclage, là, puis moi, le premier, j'en ai encore à apprendre là-dessus. Là.
Mm-hmm.
Puis moi, juste qu'on récapitule, là, mettons, bon, notre podcast, bien comment on veut parler beaucoup de l'aspect environnemental. Si on prend le plastique, on prend la dimension environnementale, c'est quoi les impacts justement, sur l'environnement? Là, on a parlé de l'impact sur la faune, la flore, outre ça.
Ouais.
C'est quoi les impacts sur l'environnement liés au plastique?
Oui, ben là, en ce moment, il y a beaucoup un problème sur... On entend parler des continents de plastique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
C'est les îles flottantes.
Oui, ben on peut le voir comme des îles flottantes, mais en fait, c'est pas nécessairement ça. Un continent de plastique, on imagine une grosse soupe de plastique. Fait que ça va être partout dans la colonne d'eau. Parce que tout dépendamment de ton type de plastique, il y en a qui vont être selon ta, en fait, son poids, sa masse puis sa forme. Il y en a qui vont flotter. Il y en a qui vont aller dans le milieu de la colonne d'eau. Il y en a qui vont aller directement dans le fond. Puis au travers de tout ça, t'as plein de micro-nanoplastiques qui flottent. Fait que dans le fond, faut pas l'imaginer comme un continent île flottante que tu peux piquer une course dessus.
C'est pas là en tout inclus. Là.
Non, c'est ça. Là. C'est comme... Parfois, on le voit même pas. Là. C'est juste... on aime bien de dire que c'est une grosse soupe, en fait, là, dans l'océan. On a 5 continents plastiques. Ces continents plastiques-là sont faits principalement avec les courants marins. Fait qu'on appelle ça les gyres. Fait qu'un gyre, c'est un courant qui va dans le sens de l'aiguille du monde, comme un peu quand tu flushes ta toilette.
Ouais.
Puis là, ça fait comme un petit tourbillon dans le milieu, là, colo à part.
Les plastiques sont comme pris là-dedans.
Exactement, ouais. On peut penser, là, il y avait eu une recherche scientifique qui s'avait faite, il avait mis un petit GPS sur un produit qui était parti du Japon, puis là, il avait fait le tour du continent plastique Pacifique, ça avait pris 7 ans, mais il était revenu sur lui-même. Fait qu'il y a une grande concentration qui se font dans le milieu, fait que c'est pour ça qu'on appelle ça des continents plastiques. Puis 95 % des débris marins, en fait, on n'est pas encore capable de les quantifier. Fait qu'on est juste capable de quantifier seulement 5 % de qu'est-ce qu'on voit réellement. Ouais.
Fait que le 5 % dont on a conscience,
mm-hmm.
il y aurait un autre 95 % en dessous de ça qu'on voit.
Attends, tous les chiffres que tu nous donnes depuis le début, c'est seulement 5 % qu'on perçoit, mettons?
Ouais, exactement.
Les camions de poubelle par minute, là?
Ouais.
Ça serait 5 % de tout ce qu'il y a dans l'océan.
Qu'est-ce qu'on est capable de percevoir comme débris marins dans les océans?
OK.
Puis, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que on est capable de quantifier 5 % mais au niveau des... On connaît plus nos constellations puis les différentes planètes que qu'est-ce qu'on a dans nos propres océans, dans le fond, parce que c'est très cru. Là. On pense à la fosse des Mariannes, des choses comme ça. On n'a jamais été capable de cartographier encore tout ça, fait que j'imagine même pas tout ce qu'on pourrait y retrouver là, de débris marins. Là. Ouais.
Puis ces îles-là, je veux pas jouer l'avocat du diable, mais est-ce que ça pourrait être positif pour certaines espèces, par exemple, pour se réfugier ou pour se cacher des prédateurs?
Ouais, ben il y en a que certaines espèces, je pourrais pas vous mentionner, mais j'avais déjà lu qu'ils les utilisaient comme pouponnières. On peut penser à des petits... moi, j'avais déjà vu des vidéos de petits Bernard l'ermite qui s'utilisait comme un bouchon là, de placer comme petite carapace, etc. Mais je pense qu'au bout du compte, ça va avoir plus d'impact néfaste, surtout avec le réchauffement climatique, parce que le plastique, en fait, va venir beaucoup émettre de gaz à effet de serre. Donc, deux types de gaz qui va, en fait, venir bonifier, en fait, le réchauffement de l'eau.
Ça, c'est lorsqu'il se dégrade qu'il va émettre ces GES-là? Ou...
Ouais, exactement. Ouais.
Ah ouais, OK. Ça, je savais pas. Il y a un impact sur l'environnement à ce niveau-là aussi.
Ah, ouais. Fait que t'as deux types de gaz. Je me rappelle plus exactement c'est quoi, là. Mais ça augmente, là. Puis qu'est-ce qui est... C'est comme... La pollution apporte pas, tu sais. Qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on consomme à rester dans notre planète Terre.
Ben, c'est ça, ça fait du sens aussi, là. C'est du pétrole qu'on extrait des profondeurs du sol.
Ouais.
On le transforme. Puis ils se ramassent soit dans les océans sous forme solide ou ils retournent dans notre atmosphère.
Ouais, fait que de.
Sous forme de GES.
Ouais, du début de sa production jusqu'à la fin de sa vie, ça va émettre des GES. Mmh. Ouais.
OK.
Moi, je me demandais, là, bon, tu l'as dit, je pense souvent comme on a, en tant que consommateur, on a certains choix, mais des fois, on sent peut-être qu'on manque d'outils. Ou qu'on n'a pas tant de choix que ça, finalement, parce qu'on se ramasse à l'épicerie et tout est dans du plastique. Là.
Mm-hmm.
Mais mettons ça, tu as bien soulevé un peu les enjeux qui découlent du plastique à l'égard de l'environnement. Du point de vue consommateur, c'est quoi, mettons, les choix qu'on peut faire différemment, les actions qu'on peut faire dans le but de, justement, peut-être essayer de minimiser l'impact du plastique sur l'environnement?
Mm-hmm. Ben premièrement, juste qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment? Une discussion, tu sais, en parler à notre entourage, à notre famille. « Hey, savais-tu que le plastique, en ce moment, c'est un problème à l'échelle mondiale? Mm-hmm. Est-ce que vous saviez que même au Québec, en fait, le fleuve Saint-Laurent, c'est parmi les fleuves les plus pollués au monde? » Fait que là, on se rend compte, l'enjeu, c'est ça vient d'ici aussi, là, c'est pas juste ailleurs. On pourrait penser que c'est à l'international, des fleuves en Inde, en Asie, que ça va être plus pollué. Mais là, les gens prennent conscience, ben non, c'est de chez nous, dans le fond. Fait que les gens, quoi que c'est leur territoire qui sont affectés, ou leur maison, ou quoi que ce soit, une place.
Quand c'est proche de nous.
Ouais, c'est ça. Ben juste en. Partager toutes nos connaissances qu'on a autour de ça, t'envoies un article.
Tu partages le podcast.
Ouais, exactement. Fait que ça, c'est, ben, premièrement, sensibilisation, éducation, c'est un super point. Aussi, passer à l'action par, comme on disait, acheter tout ce qui est réutilisable, donc bouteille d'eau, une tasse à café. Puis tu prends le temps de, comme, le matin, quand tu pars, ben, tu pars avec ta tasse à café. Tu te dis pas, je vais en pogner une chez Tim Hortons ou chez McDo, tu sais. Fait que c'est comme se réhabituer dans un mode de vie, c'est comme d'autres étapes, mais à un moment donné, ça va devenir comme un automatisme. On peut parler de ports réutilisables, prioriser justement des fibres textiles qui sont plus naturelles, les plats de Tupperware comme en verre. Puis aussi, qu'est-ce qui est intéressant des plats de Tupperware en verre, c'est que tu peux le mettre dans le micro-ondes. Parce que les plats en plastique, quand tu le mets dans le micro-ondes...
Ouais. C'est-tu si mauvais que ça?
C'est vraiment mauvais. Là, tu vas en ingérer beaucoup du microplastique.
Ah, ils sont pas food safe, ces plats-là?
Non, parce qu'ils sont faits pour l'usage unique.
Ah, qui ceux qui sont usage unique, pas ceux qu'on achète pour nos plats à lunch.
Ouais, ben, ils sont pas faits. Sont faites pour durer plus dans le temps que les usages uniques, là, mais ils vont en avoir pareil parce que, en fait, le plastique va venir se faire chauffer.
Fait que, c'est en contact avec la nourriture.
C'est ça, exactement. Sinon, on peut penser aussi à passer à l'action. Comme je disais tantôt, on est une gang au jour de la Terre où, je sais pas, on se mobilise ensemble, on se fait un feu, ça aberge, puis on ramasse des déchets autour. Fait qu'on rend l'utile à l'agréable. On a un spectacle, on va dans un festival. C'est beaucoup de consommation, etc. Ben nous, en tant que festivalier, ben on peut prendre deux minutes. Bon, moi, je vais faire ma part. Ça peut paraître comme une goutte d'eau dans l'océan, mais dans le fond, quand on met toutes ces actions-là ensemble, ben ça fait vraiment un grand changement.
Une goutte d'eau dans l'océan qui empêche un morceau de plastique dans l'océan.
l'océan.
Ouais, c'est ça.
Ça ferait un bon slogan.
Ouais.
Une goutte de plus dans l'océan pour un morceau de plastique de moins.
C'est bon, ça.
Besoin d'une vague de changement.
Ouais. Oh, oh. Ah, il va falloir se trouver un slogan, Eric, pour le podcast.
Vraiment, on a de quoi, là.
OK, fait que c'est ça. On priorise d'autres matériaux que le plastique. Où est-ce que c'est possible? On ramasse les morceaux de plastique qu'on voit traîner à l'extérieur quand il y en a. Et on essaie de réduire à la source. Je pense que c'est ça à la base de tout problème. Là. C'est bien beau d'avoir du recyclage. Le recyclage va probablement fonctionner dans les années à venir. Mais si on veut régler un problème comme ça, c'est toujours d'agir à la source, là, je pense, qui revient comme solution.
Ça
là.
Revient à chacun de nos épisodes. Mm-hmm.
On peut penser dans le coin du golfe du Saint-Laurent. C'est une biodiversité qui est vraiment riche. Mais cette biodiversité-là va être affectée. Puis ça vient jouer aussi sur notre propre économie, sur nos paysages, tout ça. Fait que ça vient vraiment impacter nous, des bons plaisanciers qui aiment aller sur le littoral, se baigner, etc. Fait que c'est pas juste à Montréal, à Québec, la pollution est vraiment omniprésente. Mm-hmm. C'est plus qu'on s'en va vers le golfe, vers l'Atlantique, plus il y a de densité de plastique, plus sous forme de microplastique. Fait qu'à quel point qu'on est responsable pour tous les continents plastiques qu'on a, surtout celui-là de l'Atlantique, on a une grosse part de responsabilité à avoir. Là.
Mais c'est fou parce que tu me parles du Saint-Laurent, bon, qui est mal en point, qui serait pollué. T'sais, on le sait un peu tout, là, on vient de Québec, on en entend parler, là, mais... Quand je pense à un fleuve pollué ou qu'il y a du plastique dedans, je pense au Gange en Inde. Là. Pourquoi? Parce que j'imagine que l'eau est brune, noire, on voit des déchets apparents. Mm-hmm. Mais tu sais, si tu te rends compte qu'on veut surtout pas se rendre à ce point-là. Là.
Ouais, c'est t'sais, ça.
Puis que c'est pas parce qu'on le voit pas de nos yeux qu'il y en a pas un problème, tu sais. Parce que justement, peut-être que quand on va le percevoir de nos yeux, c'est que là, on a franchi un point de non-retour. Là.
Exact. Ça va se retrouver dans les sédiments, fait que dans le fond, dans la colonne d'eau, c'est partout. Puis c'est un très, très grand territoire. Là. Faut avoir ça des fois. Je sais pas c'est combien de kilomètres qui fait le fleuve le Gange là, en Inde. Là. Mais bien souvent, c'est sur une plus petite portion de territoire, une plus petite échelle. Puis nous, c'est une très grande échelle. T'sais, on a vraiment un très gros territoire. Fait qu'on on le scanne des yeux, on le voit pas nécessairement. Mais si on ratisserait à la même échelle qu'un certain type de fleuve en Asie ou en Inde, ben on se rendrait compte qu'il est aussi pire. Là. Puis l'affaire, c'est que on exporte beaucoup nos déchets au Canada dans les... dans des pays qui sont en développement. Puis bien souvent, ils n'ont même pas la capacité à gérer tous ces déchets-là. Puis tu sais, c'est vraiment... On est, comme je disais au début, les Canadiens sont les deuxièmes plus grands producteurs de déchets au monde, avant des pays d'Asie du Sud-Est, de l'Inde, etc. Là. Fait que faut se rappeler de justement notre façon de consommer est vraiment à changer parce qu'on va venir impacter pas juste notre territoire, mais le terrain des autres. On dit souvent, bon, ben c'est pas mon problème, tu sais. mais next thing you know, le problème des autres, c'est ton problème aussi.
Ouais, mais vu que tu le vois pas, c'est pas ton problème.
Ouais, c'est ça.
J'ai écouté un reportage, c'était CBC Marketplace qui avait fait ça. D'ailleurs, je vous invite à aller l'écouter là, si jamais, mais il parlait justement de l'état du recyclage puis le plastique au Canada. Puis il y en avait une grande partie qu'on exportait en Malaisie, dans des conteneurs. On envoie carrément nos déchets plastiques sur des bateaux. Puis là, eux reçoivent ça illégalement en Malaisie. T'sais, ils taguent le conteneur comme étant une autre affaire, puis finalement c'est du plastique. Ils rendent ça dans des usines de transformation, mais la plupart du plastique est envoyé dans des sites d'enfouissement, c'est brûlé. Fait que là-bas, c'est des émanations toxiques constantes là, pour les citoyens. Y a des enfants qui tombent malades. C'est un autre impact qu'il y a sur l'être humain aussi. Là. Lorsque c'est brûlé puis si c'est pas bien géré, y a des impacts à ce niveau-là aussi. Mais c'est fou quand même là, qu'on prenne nos déchets puis qu'on envoie ça ailleurs. Quand on aurait la capacité, là, on est un pays développé, là, je veux dire, on serait capable de faire mieux. Ouais. Je pense qu'on s'en va vers là. Mm-hmm. Ce reportage-là, ça datait de 2019.
Mm-hmm.
Fait que maintenant, ça doit être bien mieux, mais quand même, ça reste que...
Ouais.
C'est inquiétant.
C'est comme au décimal, à la virgule près, là, mais le Canada représente, je pense, 0,4% de la population mondiale, puis on est responsable près de 1,4 ou 1,8% de la production de déchets dans l'environnement. Fait que c'est fou, là.
Ah ouais. Ça, c'est plus que les Américains, mettons?
Ah ouais, on est avant les... Ben, après, je regarde, là, justement, moi, c'était comme 2023, là, mes statistiques. Les sources, fait que les sources, ça change quand même assez vite, là, mais selon notre densité de population par notre territoire, on est comme le deuxième plus grand. Le premier, je sais pas. Mais je sais qu'un des... Tu sais, j'avais vu des exemples de pays qui font que justement qui sont bien avancés là. Le Rwanda est le pays le plus avancé au monde dans le niveau de la. Ça a été le premier pays qui a été nommé une destination sans plastique parce qu'ils ont sont un des premiers qui ont décidé de bannir tout ce qui est emballage puis sac de plastique.
Ah ouais.
Fait que les autres ils ont dit non, je veux pas ça. Je pense que c'est en 2006 qu'ils ont décidé de faire ça. Ouais.
Ah
fait
ouais.
Que, on a plein d'exemples, là, je pense, à l'international qu'on pourrait... Ouais. Mais il faut commencer ici, dans notre chez-nous. Puis aussi, c'est beaucoup de la responsabilité élargie des producteurs. T'sais, dans notre protocole de caractérisation, on a 10 grandes catégories puis près de 156 sous-catégories. Fait qu'on vient vraiment compter chaque morceau. Puis on va prendre aussi en note les marques. Fait qu'on va identifier les grandes marques qui reviennent. Fait que les plus grandes filiales, ben of course, Coca-Cola, Pepsi, les grands gagnants. Puis eux autres, ils ont tous des labels qui sont associés à ça. Mais là, c'est de leur montrer, bon, ben regardez, avec une méthodologie standardisée scientifique, on a de la bonne donnée pour vous. Fait que vous êtes, en fait, responsable de la plus grande partie de la production puis de la pollution, en fait, dans notre environnement. Fait que leur montrer, ben pouvez-vous nous payer, à la limite, pour qu'on nettoie les berges ou bien justement que les consommateurs se rendent compte aussi de, avec qui qu'on achète quel type de produit. Là.
Ouais.
Bon, on voit aussi que l'impact des communautés côtières, c'est super positif quand on se décide de mobiliser. Justement, dans nos recherches dans le fleuve Saint-Laurent, on se rend compte plus on est en milieu éloigné, en milieu protégé ou même en milieu insulaire. Fait que moins qu'il y a de gens qui ont accès aux berges, plus c'est pollué. Parce que la communauté n'est pas là pour rendre un service écosystémique. La population n'est pas là pour dépolluer. Fait que plus, justement, avec là, on s'en va sur un 30 % d'air marine protégé, 30 % d'air protégé au Canada. Fait qu'on va avoir plus en plus de sections de notre territoire qu'on ne pourra pas avoir accès. Ben là, c'est
pensé, et donc, ils vont être pollués.
C'est ça. Fait que c'est aller en amont, de faire OK, il faut avoir des systèmes de dépollution, il faut penser à ces endroits-là qui vont être hyper protégés, etc.
Fait que nous, c'est comme si les citoyens protégeaient un peu ou s'assuraient de nettoyer ces espaces-là.
Ouais, parce que le monde sont attachés justement à leur territoire. Puis chez vous, tu ne veux pas que ça soit crotteux. Là.
Ouais.
Tu sais, justement, au Québec, on est une grande aussi destination touristique. Tu sais, on monte nos belles plages, notre littoral, le fun qu'on peut avoir avec le Saint-Laurent, même Lac-Rivière, on en remonte d'inter, tu sais. Mm-hmm. C'est comme notre force, notre beauté. Fait que si on vend notre destination touristique un peu de même, on veut pas que, justement... un exemple, les gens vont à Bali, genre, puis là, le monde se rend compte que... Bon,
c'est à la plage, il y a plein de plastique.
Ouais, c'est ça.
Il va y avoir moins de monde à Bali, c'est ça.
Ouais, genre.
Ah ouais? Ouais. Ouais, pas fou.
Mm. Moi, ça m'est arrivé, j'en avais parlé dans notre épisode d'introduction, dans notre saison 1, mais quand j'étais en Italie sur un ferry pour passer d'une île à l'autre, en plein milieu de la Méditerranée, j'avais vu un sac de plastique qui flottait dans l'eau. T'sais, au milieu de nulle part, là. Je me disais, voyons donc, c'est... C'est bizarre, là. C'était tout bleu, tout était beau, sauf un sac de plastique perdu.
Dis-toi que ça fait juste partie du 5% qu'on est capable de voir.
Ouais.
Ouais, ben là, quand je pense à des îles, tu sais, on appelle ça quoi? C'est le cinquième continent qu'ils l'appellent?
Ouais, le septième continent.
Ouais. Ah oui, il y en a six.
Mais je t'ai pas corrigé, je savais pas plus.
Mais je pense, c'est septième. Je pense que oui. Ouais.
On a quoi? Amérique du Nord, Amérique du Sud.
X plus 1,
Europe,
X plus 1.
Asie. Afrique. Australie, on est rendu à 6. 7. 7e. C'est bon, ouais. Ça balance. mais c'est ça, fait que 7e continent, j'imagine pas tomber là-dedans en bateau. Il y a pas mal juste.
Juste se rendre en bateau, pas, là,
mais ça doit être terrible.
Ouais, c'est la pointe du iceberg qu'on voit. Là.
Ouais.
Fait que tu tombes en bateau là-dedans. Je sais qu'il y a un grand mouvement, c'est de Ocean Cleanup. Là. Ces autres, ils ont des méga bateaux, là, des paquebots. Okay? Puis ils ont fait des technologies avec des gros filets. Puis ils ramassent tout ce qu'ils ont sur leur passage, mais en même temps, ça filtre les animaux. Donc c'est bon pour.
Ouais.
Il n'y a pas la. Pêcherie qui se fait au travers de ça. Là. Puis c'est comme des tonnes et des tonnes de déchets qu'ils mettent sur leur... C'est comme ils dépolluent tellement intensivement les contenants de plastique, principalement dans le Pacifique. Là. Ouais,
mais après, ce plastique-là, ils le prennent puis ils vont l'enfouir? Ou
ouais, c'est ça, je me demande. Tu fais quoi avec après?
Je ne sais pas où ce qu'ils l'amènent. C'est sur leur site Internet.
Tu l'envoies en Malaisie dans un conteneur puis ils le brûlent?
Ouais, c'est ça.
Fait que c'est vraiment... Il faut arrêter de produire là, parce qu'il y en a trop, là. Puis il faut penser notre façon de consommer. Puis, ouais. Ouais.
Mais c'est-tu, tu sais, si on veut s'imaginer là, un monde sans plastique, est-ce que c'est réaliste au 21e siècle?
J'ai pas l'impression que ça
serait difficile.
Moi, personnellement, je pense que c'est vraiment utopique. Ouais. Parce que, tu sais, faut pas le démoniser non plus, comme je disais au début. C'est ça. Il nous apporte des bonnes choses. C'est... Puis je vais le répéter encore et encore, mais c'est notre façon de la consommer, puis c'est notre façon de le réutiliser, de le recycler, ouais. Puis c'est arrêter de produire ces quantités-là, vraiment, puis arrêter d'encourager des grandes, comme on peut penser, le linge. Tu sais, ajoute-toi un beau morceau qui va perdurer dans le temps, un morceau qui va, peu importe le produit, là, au lieu de t'en acheter comme à tous les mois, à refaire ta garde-robe, par exemple, je peux penser à les trucs de fast fashion et tout, là, fait que c'est comme penser premièrement, bon, ben, qu'est-ce qui est intéressant, c'est un exercice qu'on peut faire pour diminuer sa consommation de plastique, c'est aller pièce par pièce. Je commence par ma cuisine. Bon, qu'est-ce qui est là-dedans qui est de plastique que je pourrais changer pour un autre produit? Là, tu penses à tes Tupperware, justement, tes crans verts, là-dedans, t'as tes pâtes, tes ustensiles, en tout cas. Fait que là, t'as refaire ta cuisine avec des produits plus éco-responsables. Là, tu vas dans ta salle de bain. Au lieu d'avoir du shampoing, justement, dans une bouteille plastique, ben tu peux prioriser cela en bar ou ben là, c'est rendu ça se vend en poudre. Sinon, ta brosse à dents, justement, en bois d'érable ou en bambou, là, c'est un autre débat, là. Mais, fait que,
c'est intéressant comme exercice.
Ouais, c'est concret. Une pièce à la fois.
Ouais, exact. Puis tu sais, c'est...
Un autre exercice, ben, comme j'en ai parlé tantôt, à l'épicerie, juste regarder autour puis essayer de faire des choix plus éclairés. Mais on peut ramener ça aussi dans nos foyers, là. Regarder ce qu'on met dans le recyclage.
Mm-hmm.
Moi, je suis surpris à chaque fois. Je mets tellement d'affaires dans le recyclage, là, ça déborde.
Il y en a plus dans mon recyclage que dans ma poubelle, je
pense. Ouais, moi aussi. Mm. Mais porter attention à c'est quoi qu'on met dans le recyclage, puis y aurait-tu une alternative à ça?
Ouais.
C'est pas pour toutes, mais souvent, on peut faire une petite étape qui permet d'éviter ce plastique-là.
Mm-hmm. Puis dire non au plastique à usage unique. Tu sais, mettons, tu vas prendre un verre dans un bar. Ben là, c'est de plus en plus banni dans les municipalités, etc. Mais si tu mets une paille, ben moi, des fois, je dis, moi, je ne vais pas te prendre la paille en amont, tu sais.
Mm-hmm.
Juste ça, tu sais, c'est comme, c'était juste une paille. Mais si tout le monde fait ça, il dit non à la paille, ou bien que tu traînes justement ton trousseau, avec son trousseau clé, là, c'est rendu que tu peux avoir des ustensiles jetables là, qui sont rétractables. Là, t'es toujours prêt à manger une bonne poutine, genre, dans une cantine, avec ton trousseau clé, avec tes clés réutilisables. Ou tu sais, le déchet aussi qu'on retrouve le plus dans le fleuve Saint-Laurent, c'est le mégot de cigarette. Le mégot de cigarette est le déchet le plus retrouvé. Puis en plus, un mégot, ça peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau potable. Avec tous ces chemicals, ces produits chimiques qu'il y a là-dedans. Puis le botch est fait de plastique. Fait que c'est comme, tu sais, notre terrain, c'est pas un des botch à ciel ouvert, tu sais. Vous êtes des fumeurs, puis tu sais, faut pas arrêter de fumer si t'aimes ça fumer, mais si penser ton botch de cigarette, ben c'est pas parce que c'est tout petit puis tu le jettes dans le milieu de la rue qu'il disparaît, là. Au contraire, il va rester là vraiment longtemps, puis ça a un impact.
Tu le mets où? Tu fumes pas, mais tu fais quoi avec ton botch de cigarette?
Tu le mets dans la poubelle. Tu vas l'éteindre. Au moins, il va se ramasser à l'enfouissement dans une concentration.
Parce que j'ai déjà pollué, si tu veux.
C'est une grosse question. Ouais. Je sais pas trop. C'est un des objectifs d'aller visiter un centre de tri, là, puis comment ils gèrent ça, les déchets. Là.
Ouais, parce qu'il y a des autres ruissellements. On en avait parlé là, avec Danny. Il y a nos sites d'enfouissement technique. Souvent, ils mettent une membrane en dessous pour éviter que les autres ruissellements sortent avec des toxines, des produits chimiques. Mais cette membrane-là, elle a une durée de vie de 25-30 ans. Fait que tôt ou tard, elle va finir par se désagréger. Par contre, j'imagine que c'est mieux d'avoir un espace très concentré avec des déchets que le fait que ce soit éparpillé partout. Parce qu'à un moment donné, avec la technologie, on va peut-être réussir à traiter ces déchets-là. Puis là, ça va être beaucoup plus simple que d'aller les chercher aux quatre coins du monde.
Ouais, c'est ça. Puis je ne sais pas si vous avez entendu parler une anecdote terrain vraiment intéressante de Sable Island, l'île de sable. Non. C'est dans l'Atlantique, hauteur Nouvelle-Écosse. C'est une île de sable. Là. C'est comme ça fait un U. C'est vraiment pas très grand. Puis il y a une population de genre 500 chevaux sauvages sur cette île-là. C'est un site de Parc Canada. Puis il y a une dame qui s'appelle Zoé Lucas qui a dédié sa vie à la protection puis comme à l'étude de style-là, en fait. Puis on l'a rencontrée, elle avait son propre protocole de caractérisation. Puis là, elle était comme, « Hey, les filles! » Elle dit, « Moi, j'ai trouvé un sac de chips vraiment niché, là. » Elle était comme, elle pensait que ça venait de l'Europe. Elle était comme les Miss Vickies. Puis là, on était comme, « Ben non, nous autres, on est des grands mangeurs de Miss Vickies au Québec. » Fait que là, on checkait les courants. Ça s'en va direct. Elle était comme, « Ah, oh, puis de ce temps-ci, ben je retrouve plus de canettes de Pepsi ou bouteilles de Pepsi que de Coca-Cola. » Ben on est comme, « Hey, ici, c'est Pepsi, tu sais. » Nous, on est plus des grands. Fait que là, c'est là que tu vois qu'on a tellement une influence sur les autres places ailleurs. La dernière fois, on était à Matane, puis on a trouvé une pancarte électorale qui était de Charlevoix, l'autre bord, là. Ah. Fait qu'elle a juste traversé, tu sais. Elle, c'était un petit chemin, là. Elle était encore pas pire, là. On aurait pu la réutiliser, mais quand même, là. Ouais.
Ouais, fait que ça se déplace beaucoup, tout ce plastique-là.
Ouais, exact.
OK. Ben, je pense que ça faisait le tour de nos questions.
Yes.
Ben, merci beaucoup, Laurence Martel. C'était un plaisir.
Ça a été un plaisir également. Merci beaucoup.
Merci.